tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Fin 2013, après 11 numéros, le mensuel V Marseille annonce la fin de l'aventure, faute de moyens. Et voilà, de retour, la ritournelle crise de la presse. Alors dans le désordre, baisse record des ventes, baisse des revenus publicitaires, de moins en moins de kiosques, illusion du tout gratuit, le bouleversement du numérique, défiance vis-à-vis des médias, les nouveaux supports type les tablettes, les nouveaux journalistes, blogueurs, lanceurs d'alerte, la loi du buzz, le rapport pouvoir-média, enfin bon, voilà un contexte. Mais dans ce contexte, eh bien, une autre aventure démarre à Marseille. Elle s'appelle « Bon baiser de Marseille ». C'est un mensuel qui sera en kiosque à partir de jeudi, je crois, donc dans les studios, pour parler de la presse de V Marseille, de « Bon baiser de Marseille », mais aussi de la presse à Marseille. Nous avons dans les studios de nombreux journalistes. Très heureux donc d'accueillir Éric Bessati de V Marseille, Frédéric Legrand pour chez Albert.fr, Olivier Jourdan-Rouleau pour « Bon baiser de Marseille », Romain Fiorucci pour « Filma », .fr, Alexandra Lopis et Mallory Demanuele pour EBAM. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors, je propose qu'on commence un peu avec Éric Bessati à propos de donc, V Marseille, de nous parler un peu de cette aventure qu'a été V Marseille et nous dire un peu pourquoi d'abord ça s'est arrêté.
Tout simplement par manque de moyens, avec nos petites épaules de journalistes de 25 ans, on n'avait pas envie de s'endetter et voilà, donc on a décidé d'arrêter. On avait trouvé des lecteurs, mais pas assez de publicité pour nous payer. On gagnait de l'argent, mais pas assez pour payer 5 salaires de journalistes. Et avant de chavirer, on a quitté le navire.
C'est-à-dire que vous avez fondé votre modèle, disons, économique sur la publicité.
Voilà, c'est ça, c'est un modèle économique vente au numéro en kiosque et librairie, plus abonnement et entrée publicitaire. Voilà, donc on avait une régie publicitaire qui a été assez performante pour nous faire durer un an et assurer les coûts d'impression. Mais voilà, au bout d'un an, plus de chômage et donc pas moyen de se rémunérer avec l'entreprise. Voilà, on s'est fait simplement quelques feuilles de paye résiduelles, mais pas assez pour pouvoir assurer un loyer, à manger, tout ça.
Alors je disais dans cette espèce de liste à la Prévert de la crise de la presse, baisse des revenus publicitaires, et que notamment la presse, disons, locale vit beaucoup de la publicité des collectivités. Par exemple, sur le journal V Marseille, vous aviez très peu de publicité institutionnelle.
Oh, alors aussi bizarre que ça puisse le paraître, on a eu toutes les collectivités territoriales qui ont pris de la pub chez V Marseille, Ville de Marseille, MPM,
et ça n'a pas suffi.
Conseil général et Conseil régional. Oui, ça n'a pas suffi. Mais juste pour être clair sur cette question de la publicité institutionnelle, effectivement, à V Marseille, on portait aussi l'idée, comme certains acteurs locaux comme Mars Actu portent, d'une clarification et de voilà que d'une transparence au niveau des publicités, enfin des budgets communication des collectivités territoriales, parce que voilà, c'est de l'argent public et on veut savoir combien des collectivités, donc de nos impôts, partent pour la Provence, combien part pour la Marseillaise, combien part pour Mars Actu, combien part pour les nouveaux acteurs. Ça permettrait une clarification et surtout de ne pas faire du chantage à la publicité de certaines collectivités, comme ça peut arriver dans certains cas, c'est-à-dire ne publiez pas cette information, sinon on vous coupe les vivres de la publicité.
Mais ça arrive, hein.
Voilà, ça arrive. Nous, à V Marseille, on a été très clair. Un jour, bah, c'est paru dans le numéro 2. Un jour, un fonctionnaire, non, un élu du Conseil régional général nous a dit ne publiez pas ça, parce qu'on faisait un article sur combien coûte la sécurité de Guérini. Il nous a dit ne publiez pas ça, c'est pas bon pour votre titre de presse. Pardon, on a publié cette phrase et derrière on a eu la pub du Conseil général. Alors à ne rien y comprendre, en tout cas pas de perversion de notre côté. Voilà, ben, on publie ce qu'on a envie de publier. Vous prenez de la pub, ça regarde pas la rédaction. Il y a un mur entre la rédaction et le service commercial. Si vous voulez annoncer, c'est pour annoncer dans un mensuel qui a une certaine audience et non pas pour acheter une rédaction.
Au-delà de la question économique, comment vous analysez cette impossibilité aujourd'hui pour un journal comme V Marseille, par exemple, qui répondait quand même à l'absence d'un mensuel, disons, à Marseille. Comment se fait-il que, pour vous, ça n'a pas fonctionné au-delà de la question économique ? Parce qu'il y a, c'est aussi un problème de lecteur, non ?
Le lectorat, nous, on considère qu'on a gagné la bataille du lectorat. Donc, c'était en tournée à 2500 achats par numéro, ce qui est quand même un bon score. Après, il y a une certaine opacité aussi dans les chiffres de vente de la presse, et c'est difficile de savoir le vrai du faux. Marseille et l'Hebdo, je crois qu'ils sont à 2008 par numéro, selon les chiffres de l'OJD, voilà, à préciser en regardant les chiffres officiels. Mais voilà, nous, on considérait qu'à 2500 lecteurs, avec un objet à 3,50, voilà, après on multiplie par 4 le nombre de numéros achetés pour obtenir le nombre de lecteurs, voilà, on peut dire qu'on avait 10 000 lecteurs, et pour nous, c'est vraiment pas là l'échec du titre, c'est vraiment dans la capacité d'attirer les annonceurs. Après, si on veut faire tourner un titre de presse rien qu'avec les lecteurs, il faut augmenter le prix de vente, il faut être à 8-10 euros et proposer quelque chose d'encore plus haut de gamme pour provoquer l'acte d'achat à ce prix-là, quoi.
Et à quel type de journalisme, disons, vous revendiquez dans cette aventure qui était V Marseille ? Quelle était un peu la philosophie de ce journal pour ceux qui sans doute ne le connaissent pas?
Alors on était, on va sortir les grands mots, on était, déjà dans la rédaction on était 4 sur 5 à venir de l'IUT de Lannion, qui est une école reconnue de la profession et qui a la particularité de s'intéresser aux défauts de la presse, d'avoir une approche très sociologique et de l'inculquer à ses élèves. Alors nous, dans la droite ligne, on a continué à vouloir représenter le territoire, pas répondre à une actualité, mais plutôt choisir nos sujets, s'intéresser à un fait de société, à un territoire donné, plutôt que de courir après le scoop, de révéler des affaires. On a préféré représenter le territoire, et notre ligne éditoriale plus particulièrement, c'était de dire on va rassembler tous les Marseillais dans un même magazine, et pour ça on avait créé des rubriques bloc party qui s'intéressaient aux réalités sociales des grands ensembles, on avait créé une rubrique Méditerranée, voilà, c'était ça notre spécificité, et puis aussi un ton qu'on pourrait qualifier d'apaisé, c'est-à-dire de voilà, dans nos titres on avait un leitmotiv de jamais écrire Kalachnikov dans notre magazine. Bon, ça tournait avec Cité Phocéenne, Pétanque et Cagole. Voilà, on avait une volonté de renouveler un petit peu le langage quand on parle de Marseille, voilà, d'apporter un nouveau regard, un nouveau ton et des choses voilà, apaisées entre guillemets.
Alors Olivier Jourdan-Rouleau, cette aventure de V Marseille, la manière dont elle s'est conclue ne vous décourage pas et vous lancez dans l'aventure d'un mensuel Bon Baiser de Marseille, mais c'est tout autre chose.
Oui, c'est tout autre chose. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt, évidemment, ce que disait Eric sur leur aventure, sur leur histoire. Moi, je retiens deux choses de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont produit. C'est d'abord, effectivement, je pense que ça dit à Marseille qu'il peut y avoir un lectorat, y avoir un lectorat pour une presse écrite, voilà, qui affiche quelques ambitions et en tout cas qui a une ligne éditoriale différenciée de l'offre traditionnelle. Voilà. Après, sur la ligne éditoriale, on n'est pas exactement sur le même terrain avec le journal qu'on va lancer. Ceci étant, deuxième leçon que je retiens de V Marseille, oui, lectorat, oui, effectivement. 2500, c'est très méritoire. Il faut connaître aussi les chiffres de vente des mastodontes, des grandes marques de la presse nationale à Marseille. C'est absolument consternant. Quand V Marseille est à 2500 ventes, je ne veux pas citer de journaux ici, mais vous avez des grands titres de PQN, oui, c'est ça, qui sont très loin de ça à Marseille. Donc ça vous donne un peu une idée de l'exploit, j'ai envie de dire, ou en tout cas des difficultés. Deuxième leçon, effectivement, ça c'est positif, mais en même temps ils n'ont pas tenu. Donc ça, c'est des tas de questions qui se posent. Je crois qu'effectivement c'est très très difficile, mais j'y reviendrai. Après, sur la ligne, c'est intéressant ce que dit Eric Kalachnikov. Et nous, effectivement, Kalachnikov, on va l'afficher à la une de façon un petit peu provocante. C'est dans la baseline de Bon Baiser de Marseille, donc politique, enquête, info, politique, Kalash et Angatz. Et on va même avoir une espèce de slogan très marketing à la une que je dévoile ici. On est en train de faire du teasing sur Facebook. C'est le magazine qui va vous parler de la Kalash. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça est très provoque. J'imagine que ça va provoquer des tas de réactions. D'une part, moi, ça m'intéresse de provoquer des réactions parce que je sais que faire vivre un journal, c'est une aventure extrêmement difficile. Deuxièmement, la Kalash, si vous voulez, moi je ne l'ai pas inventée. Elle est là, elle me semble une réalité de Marseille. Faire parler une arme en termes de balistique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire dire ce qu'il y a derrière et raconter ce qu'il y a derrière. La Kalachnikov, ça m'intéresse énormément, au même titre que d'un tas d'objets marseillais, du bestiaire marseillais. Et on va essayer de raconter, de produire du récit là-dessus, notamment de l'enquête et de l'investigation.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque de la loi du buzz? Bon, par exemple, je crois que le directeur de l'Express disait, bon, peu importe le buzz, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, l'important c'est de faire du buzz. Est-ce que là, il n'y a pas le risque de, d'aller dans le buzz, dans la une accrocheuse? C'est vrai que si on regarde V Marseille, bon, la une, il y a un titre et puis une image et c'est tout. Hein.
Vieux débat. Barbier n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Pierre Lazareff, de la grande époque de France Soire, disait que les mamelles du journalisme, c'est l'information et son démenti. Donc ça, ce sont des vieux trucs. Il faut vendre. Il n'y a aucune honte à vendre et j'espère vendre le plus possible, même si je n'ai aucune certitude. Après le buzz, vous savez, il y a deux choses. Hein. Rien de pire que créer un journal et de le faire disparaître dans l'indifférence. Je ne parle pas de V de Marseille, je parle de façon générale, j'ai créé beaucoup de journaux, certains sont morts. Ça, il n'y a rien de pire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de provoquer quelque chose, un intérêt, même si des fois ça verse un peu dans la polémique, on va assumer notre subjectivité, et ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur non seulement achète, et se dise que le cahier des charges a été tenu. Moi, le cahier des charges, nous concernant, il est très simple. On prétend produire de l'information, sortir de l'information, investiguer tous les champs qui concernent cette région, c'est-à-dire on va considérer la politique, la culture, les choses plus légères, plus futiles, le sport, l'économie, le sociétal, comme des terrains d'investigation. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, on se dise et on pèse mon travail et notre travail sur le terrain de l'investigation. Est-ce que ce dont on parle est fondé? Est-ce que c'est construit? Est-ce que les faits qu'on révèle sont là ou pas? Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la seule chose sur laquelle je vais être jugé. Après, évidemment, chacun sera pour, contre, mais je pense que le débat, c'est pas mauvais.
Donc, journal d'investigation.
On va être très très largement sur ce terrain-là et évidemment très très politique.
Et c'est possible au niveau régional d'une presse de région de pouvoir faire de l'investigation. Je dis en deux raisons. D'abord, un, parce que ça demande des moyens, et deux aussi parce que le rapport avec justement le pouvoir est beaucoup plus resserré. La question de la publicité institutionnelle, elle dépend de ça. Plus l'investigation est forte et osée, plus il y a un risque qu'à un moment donné, il y a une perte publicitaire. Il y a cet exemple de Mars Actu qui avait quand même reçu une menace directe de Guérini, hein, qui lui avait dit « je vais faire tuer ton journal parce que t'es pas sympa avec moi. Est-ce que vous avez pas peur de... » Enfin voilà, comment vous avez anticipé cela? J'imagine que vous l'avez anticipé.
Écoutez, donc peur, je crois qu'il y a il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous, on lance ce magazine-là avec des gens qui ont l'habitude de ce type de journalisme. Ce sont nos amis du mensuel Corsica qui existe et produit un travail remarquable encore sur un terrain extrêmement difficile et miné depuis 13 ans, 14 ans. Ce qu'on défend, c'est un type de presse indépendante de type mensuel qui existe dans beaucoup d'autres endroits ailleurs qu'à Marseille. Et c'est vraiment quelque chose de très curieux étant donné le contenu de ce territoire. Ça existe à Lyon, ça existe en Corse, sur un territoire extrêmement difficile, ça existe en Bretagne, puisque nos amis viennent de Bretagne, et c'est une presse très très performante, très très incisive, qui sort des choses, donc c'est totalement possible. Après, sur le matériau, pardon, mais Marseille, quel monstre, magnifique, Quasimodo, on va s'en emparer, et les acteurs, on va s'en emparer. Écoutez, Maryse Joissin qui sort de l'évêché, et qui pleure, la Pietà, mais... Il faut produire, enfin on a tous envie de produire du récit, c'est formidable. Moi c'est le côté monstrueux, et attention c'est pas, je suis admiratif des monstres, c'est comme Quasimodo, Ricciotti qui nous fait une interview très très détonnante et très drôle, vous lirez, nous dit Marseille c'est Quasimodo, mais on l'aime Quasimodo, et nous on a envie de la raconter, et le récit, voilà. Après le reste, vous savez, moi j'ai pas la science infuse, je sais pas si on arrivera à accrocher, je pense en tout cas que ce type de produit n'a jamais été présenté à Marseille, et je pense qu'il peut y avoir une attente, voilà.
Alors il sort en kiosque cette semaine donc.
Ça arrive jeudi dans tous les bons kiosques, c'est-à-dire dans tous les kiosques à Marseille, Aix et dans le département.
Peut-être que vous pouvez nous dire un peu justement les différents sujets qui vont être traités sur ce premier numéro.
On va parler de pas mal de choses, je vais peut-être dire deux, trois mots sur la une, donc qui affiche une calache, qui va faire parler la calache. Donc ça c'est un slogan, on y reviendra dans le numéro 2. Là pour l'instant donc beaucoup beaucoup de politique, on va d'abord révéler un certain nombre d'affaires qui touchent la police. Vous savez qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, notamment les histoires de la BAC. Alors, est-ce que ça se dégonfle, est-ce que ça se dégonfle pas? Nous, on a cherché ailleurs, dans cette police exemplaire prônée par Manuel Valls. Eh bien, on s'est aperçu que la hiérarchie qui veut que les petits gars sur le terrain, qu'ils soient de la BAC ou d'ailleurs, soient exemplaires, ne sont pas d'une exemplarité totale. Et on va vous raconter un certain nombre d'histoires. Alors, certaines sont un petit peu connues, mais il y en a certaines dont on n'a jamais parlé, très très étonnantes, de grands policiers qui occupent des fonctions éminentes dans la hiérarchie aujourd'hui, la façon dont ils peuvent déraper et dont ils sont ou non écartés à un moment, et en tout cas dont ils reviennent pour diriger cette police qui doit être exemplaire. Et là, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. On sera sur le terrain de l'OM aussi, notre ami Xavier Monnier, qui est une de nos signatures. On va essayer de développer de belles signatures, vous verrez ça, nous raconte les déboires des présidents de l'OM et aujourd'hui, face à quel problème se retrouve la Brune. Et puis encore un mot en politique, évidemment. Et on va s'intéresser à un candidat dont on parle beaucoup, qui pourrait être le prochain maire de Marseille. Il s'appelle Patrick Mennouchy. Il y a un très long portrait qui lui est consacré, triple portrait, et on revient notamment, c'est à la une, sur une affaire oubliée dont je pense on va parler.
Romain Fiorucci pour Filma.fr. Je crois que Filma.fr c'est aussi un site donc d'investigation. Marseille, non, pas l'investigation.
Non,
enfin, vous venez de l'endroit de l'investigation, plutôt une culture de l'investigation, non?
Non, pas du tout. On vient du milieu du journalisme généraliste, on va dire. On a passé quelques années sur une chaîne locale, la chaîne Marseille. Nous, on s'oriente vraiment sur une autre manière de travailler. Je pense que un journal d'investigation est une nécessité.
Très proche du micro.
Pardon, est une nécessité à Marseille, à sa place. On peut aussi discuter aussi du Ravi ou d'autres formats qui ont tenté aussi d'être dans ce style-là et de voir la différence. Nous, on est d'abord des journalistes de télévision, d'images, de photographie. On fait un choix qui est plus dans l'observation d'une réalité, en fait. Je pense qu'on se rapproche un peu plus d'un aspect de documentariste. On a envie, peut-être aussi, après quelques années comme ça, à manger du ce qu'on appelle du news ou du hard news en local, des faits divers ou du reportage inscrit dans une courte durée qui ne montre comme ça que quelques faits. Effectivement, dans une chaîne où on n'a pas forcément, là pour le coup, les moyens de faire de l'investigation, on a eu envie aussi de montrer, de faire ce métier de manière différente, de prendre plus de temps et d'être dans une mission d'observateur et de montrer une réalité, d'offrir comme ça une réalité aux spectateurs, aux téléspectateurs sur le web et sans forcément influencer ce qu'on filme. C'est pour ça qu'on a un parti pris qui est celui d'agir bien sûr à travers nos montages. On fait de la vidéo, de la photo, on fait des modules comme ça qui mélangent plusieurs médias, mais on est plus dans l'ambiance. On aime ce côté comme ça, regarder ce qui se passe devant nous, cette réalité, et bien sûr que derrière ça, il y a des messages dans le montage ou dans l'écriture autour de ça, mais on a envie aussi de laisser aux gens qui regardent notre travail de se faire leur idée.
Disons que c'est l'œil.
C'est l'œil. C'est vraiment, je pense qu'on c'est plus un travail in fine de documentaire, d'observation.
Mais revenons un instant sur quand même la presse d'investigation. Je ne sais pas, peut-être Frédéric ou d'autres, mais la presse d'investigation. Moi, je suis à Marseille depuis un an. Ça n'existe pas depuis longtemps, ça n'a jamais existé.
Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ce qu'on entend par presse d'investigation au sens national du terme, des journaux comme Le Canard Enchaîné, par exemple, certains papiers qu'il y avait pu y avoir dans Le Point à l'époque de Jean-Marie Ponto, des choses comme ça, effectivement, on n'avait pas vraiment de médias identifiés en tant que tels localement. Ça, c'est vrai. Par contre, dire qu'il n'y avait aucun travail d'investigation dans aucune rédaction, alors là, c'est faux. Il faut quand même reconnaître que malgré tous les défauts qu'on peut donné à la presse locale, aux médias locaux traditionnels, la Provence France 3, le gros de l'affaire Guérini sort sur ces médias-là. Et Dieu sait si la Provence, quand même une bonne partie, Le Monde aussi, Le Canard Enchaîné aussi, mais il y a quand même plusieurs, notamment certains résultats d'écoute déterminants dans l'affaire Guérini, sortent sur France 3. Ça, c'est la fameuse écoute de Guérini qui téléphone à son frère Alexandre, qui téléphone à Jean-Noël et qui lui dit on va être perquisitionné par Long Corse. Ça sort sur un média, tout ce qu'il y a de traditionnel. Donc il y avait quand même un travail d'investigation qui aurait pu être mené différemment, plus profondément, mieux. effectivement, ça, on peut tout à fait en discuter, mais il y a quand même un travail d'investigation qui est fait dans cette presse traditionnelle. Après, effectivement, il n'y a pas de média qui est dédié à cette forme de journalisme, et je rejoins tout à fait Olivier sur ce thème-là. Effectivement, vu la, la mine d'informations qu'est cette région, et Marseille en particulier, c'est incroyable que ça n'ait pas surgi plus tôt. Là, je suis tout à fait d'accord.
C'est un vrai terreau, Marseille.
Ah oui, oui, c'est un terreau extrêmement fertile. Donc, effectivement, il y a un manque de ce côté-là.
V Marseille, vous y étiez, vous, dans cette expérience de l'investigation, ou pas
on
du tout?
On était... par manque de moyens et de connaissances, on était tout jeune avec un, un titre aussi, aussi jeune que nous, enfin voilà, un titre naissant. On commençait à avoir des infos, on avait des coulisses, on appelait ça des coulisses, mais on était plus dans l'analyse plutôt que l'investigation. Par exemple, sur des, affaires, enfin, sur, par exemple, la, le marché Opus qui, dont les politiques publiques ne savent pas quoi en faire. On a bien analysé, on a enquêté. Mais investigation au sens noble du terme, entre guillemets, je ne pense pas qu'on était un média d'investigation. Je pense plus qu'on était un média d'analyse. Par exemple, le travail qu'on a fait sur la dette, c'était vraiment de, d'interroger tous les spécialistes, tous les acteurs, pour comprendre la dette et pour donner des clés aux lecteurs. Voilà. plus que de l'investigation à proprement parler, mais c'était aussi notre volonté, c'était aussi d'offrir du plaisir de lecture. On n'était pas sur sur de l'info hard, entre guillemets, à aller chercher des choses qui n'ont jamais été dites. On était plus
dans du décryptage,
raconter un territoire, et c'est pour ça que un média comme Bombezier de Marseille, à mon avis, va être très intéressant à lire.
Donc par exemple, V Marseille, Bombezier de Marseille, c'est complémentaire.
Oui.
Il faudrait que
on a failli partir ensemble. Hein. Je sais pas si tu le sais, puisque nous on a beaucoup hésité, on les a vus débarquer, on a suivi ça évidemment avec beaucoup d'intérêt, notamment leur lancement qui avait été sacrément réussi. Mmh. Je ne souhaite le même, même encore mieux, mais enfin on verra bien. Évidemment complémentaire. Je sais plus quelle est la question, j'ai oublié.
Et vous visez quel en termes de chiffres, le nombre de ventes pour que ce journal tenir.
La boule de cristal. On va faire un peu de journalisme pour l'instant, on va se consacrer à ça. Est-ce qu'on va en vendre 3, 200, 800, 10 000, 49 000 on verra le plus haut possible, j'espère. Je vous en dirai pas plus, on verra. Le moteur aujourd'hui, enfin c'est une question d'opportunité. Moi je suis là, je suis de retour de Corse, je connais bien les gens de Corsica, j'ai monté un quotidien qui faisait de l'investigation en Corse, je peux vous dire que c'était sacrément difficile. Je suis là avec une équipe, on a envie, il se dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire ça, est-ce qu'on pourrait pas les aider, etc., etc. Le moteur, c'est faire du journalisme. On verra ce qu'on vendra. Après, évidemment, il y a des ratios, il y a des ventes minimum, et on verra bien.
Et pourquoi le choix du mensuel et pas du quotidien ou de l'hebdo?
Parce que le quotidien, j'en ai monté un, c'est de l'industrie, il faut des moyens qu'on n'a pas. L'hebdo, ça serait pas mal à Marseille, l'hebdo. Alors Marseille, l'hebdo, d'accord, mais une version canard à Marseille, waouh. Il faut des moyens.
Ça existait avec le pavé à une époque. Un hebdo d'investigation très politique.
Enfin, qui était surtout, très beaucoup sur le fond plus que sur l'investigation, mais qui était très bon, effectivement.
Et d'ailleurs, sur ces journaux, hein, que ce soit Le Pavé ou tout à l'heure tu parlais de du Ravi, dans cette fameuse, disons, crise de la presse, les journaux qui s'en sortent d'une certaine le mieux, ce sont aussi des journaux qui assument des partis pris et qui défendent un certain nombre d'idées, qui ont complètement renoncé à l'illusion de l'objectivisme. De ce point de vue-là, quand on fait de l'investigation, souvent on se revendique aussi d'un certain objectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire?
On revendique une totale subjectivité. Je vais vous dire une chose, hein, de toute façon c'est un intérêt bien compris, puis c'est une conviction. Moi ce qui m'intéresse c'est que de ne pas naître dans l'indifférence. Moi il faut des gens qui m'aiment beaucoup et des gens qui me détestent beaucoup. Voilà. Donc ça aussi, c'est une question aussi économique. Et la subjectivité, on la revendique totalement. On ne va pas faire un journal fade, parce que nous ne sommes pas fades. Et puis le terrain ici n'est pas fade, on va essayer de s'amuser aussi.
D'ailleurs, on le voit aussi dans les journalistes que vous avez choisis, dans l'équipe de rédaction.
Oui, puis un petit mot là-dessus, produire du récit aussi, ça me semble très, très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir, si on en a les moyens, faire un travail qui ressemblera plus qu'à de la direction éditoriale de journal, d'un travail d'éditeur. Ça m'intéresse énormément. Les signatures, on en a déjà quelques-unes qui sont très, très belles, mais les formes de récit qui sont plaquées là-dessus, jouer la fiction aussi, jouer une approche aussi littéraire, on va essayer de tirer aussi là-dessus.
Radio Grenouille, 88.8.
Lauriane, hier soir à la Maison de la Radio se déroulait en public et sur les ondes une soirée de soutien aux quatre journalistes français retenus en otage depuis 7 mois en Syrie. C'est le 6 de chaque mois que Florence Bonnat, présidente du comité de soutien à Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, rappelle la nécessité de parler des 20 journalistes occidentaux retenus en otage en Syrie. Tu as suivi cette soirée.
Oui, en fait, j'ai interprété ça selon plutôt un concept particulier, en dehors du concept de la guerre, du contexte de la guerre. C'est le concept du journaliste otage, retenu en raison de leur appartenance à une nation ou à un système en général. Les journalistes sont les captifs de nombre d'entraves professionnelles, sociologiques, voire philosophiques. On en a vu avant dans cette émission, des barrières qui contreviennent à la liberté des journalistes, il y en a, à l'intérieur même de l'Hexagone. Et surtout à Marseille, qui dit liberté dit oppression d'État, même dans le pays des droits de l'homme. Alors ça fait un peu grincer des dents quand on sait que la France est classée à la très peu glorieuse 37e place en matière de liberté de la presse selon Reporters sans frontières. 37e, il faut le rappeler. Il y a pourtant un régime d'astreinte des journalistes bien plus autoritaire, la dictature de l'actualité. Sans parler des temps d'antenne, des pans entiers de l'histoire sont laissés aux oubliettes pour le coquet éclat des récents remous événementiels. Mais le plus inquiétant est que tout le monde s'accommode et se soumet de l'absence de traitement réel de sujets comme le Tibet ou la Tchétchénie, pour ne citer que, ou de sujets de fond d'enquête à Marseille. La liste est longue pour ce qui est des situations d'état d'otage des journalistes quant aux oppressions économiques, sur le fond comme sur la forme du job. On se souvient d'ailleurs de cette journaliste italienne indépendante qui cet été a étalé sur la place publique les malheurs des pigistes, Francesca Bori, même en Syrie, dira-t-on. Le journaliste n'est pas un produit commercial très rentable et ni forcément adapté à la clientèle. Et voilà, le tabou de la presse otage de ses lecteurs. Le journaliste otage de ses propres lecteurs. C'est un peu qui de l'œuf ou de la poule. On ne se jamais répondre non plus qui de l'État ou de la société donne sa personnalité à une nation. Alors pour ce qui est de la ligne éditoriale d'un journal, on pourrait dire qu'elle est otage des mots de la société. Un journaliste ne fait en effet que transmettre l'état des lieux d'un monde pas franchement beau à voir. Adieu la caution pour le public, c'est à eux de raquer. Si nous sommes tous les enfants du système, les journalistes en sont apparemment la pire représentation. Et question représentant, on n'est pas vernis. Otage des noms et des hypocrisies doctrinales, les communicants de la politique payent le prix fort. Admettons enfin, par exemple, qu'un politicien n'est en fait pas un être vertueux dédié à la cause commune, mais se définit comme un véritable entrepreneur politique qui fonctionne selon un modèle économique dont les vices ne sont plus à démontrer. Qu'en est-il alors du journaliste ? De quoi est constitué le gouffre sidérant entre cette image, ce fantasme de l'aventurier reporter qui part défendre la liberté et les droits de l'homme, et de l'autre côté, pourtant du même miroir, ces acteurs de la BFMisation de l'information, pardonnez l'expression peu aimable pour les employés d'Alain Vell, qui sont tous soumis au code d'écriture des journalistes, une autre forme d'otage, qui, quand, quoi, où, comment, doivent se développer sous forme de pyramide inversée, avec surtitres, titres, chapeaux et une accroche riche en jeux de mots, souvent préchauffée et surgelée, que l'on recycle même dans la chute, la dernière ligne du papier, histoire de montrer que la boucle est bouclée, alors que personne n'a encore prouvé qu'une épanadiplose signifiait la complétude d'un raisonnement. En télé, les zooms travelling et panoramiques sont asservis par la volatilité de l'œil humain, dit-on. On n'admettra jamais que des courts-métrages et des documentaires expérimentaux puissent délivrer une information viable et commerciable. On a du mal aussi à avouer que le style Gonzo peut démontrer plus d'objectivité en utilisant sans vergogne le jeu, le moi du journalisme, c'est-à-dire je pense donc j'écris.
Alors peut-on être otage des journalistes aussi, finalement, dans cette fameuse crise de la presse et dans la liste après-vert que je lançais? Il y avait aussi une crise de confiance vis-à-vis des journalistes, une crise de confiance crise de confiance qui est aussi liée à une critique des intellectuels, notamment par exemple la manière dont Pierre Bourdieu a été assez violent à l'égard de la masse média, une forme d'industrie aussi de la presse, et aujourd'hui qui fait que quand on parle de la presse ou quand on parle de journalistes, on parle des médias, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de distinction entre les types des presses. Est-ce que vous ne pensez pas que aussi les problèmes aujourd'hui de lancement d'aventures journalistiques ne peuvent pas être dus aussi à cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est d'une certaine manière otage des journalistes et de la manière dont aussi ils nous représentent le monde à notre place.
Alors au niveau conceptuel, j'ai pas assez d'armes pour répondre ni pour penser de façon construite quelque chose, mais et ça, ce qu'on a pu remarquer quand même quand on lance un titre de presse, c'est tout de suite l'engouement. C'est tout de suite l'engouement des lecteurs, c'est l'engouement des citoyens à trouver quelque chose de nouveau. Nous, ce qui avait vraiment beaucoup plu au lectorat, c'était notre revendication d'indépendance et notre indépendance réelle. Voilà, je pense que pour faire mal, entre guillemets, aux mass médias, aux représentations communes, quoi de mieux que la diversité des titres de presse et des initiatives, comme il y en a beaucoup autour de cette table, pour justement réinventer la presse, réinventer des formats, et puis aller chercher des lecteurs qui sont écœurés de tout ça, ouais.
Romain, tu voulais...
Oui, bien sûr qu'on est, je rebondis rapidement, bien sûr qu'on est, esclave. Moi, en tant que journaliste, je l'ai vécu à mon niveau, en télévision, on est esclave de plusieurs choses, on est esclave d'un agenda médiatique, c'est-à-dire qu'il y a un agenda, il y a des événements qu'on se doit de traiter parce qu'on est dans une chaîne qui est généraliste, on est esclave d'une durée. Un reportage en télévision, c'est 1 minute 30, 2 minutes, c'est un dossier, 2 minutes, c'est tellement court, pourtant c'est un dossier. On est esclave d'un sujet. Je pense que, en tout cas, aujourd'hui, la télé et comment elle dévie vers effectivement une standardisation de durée, de façon de décrire et compagnie, fait qu'on ne sort plus de ce schéma comme ça, qui fait qu'aujourd'hui il y a une défiance envers le métier qui déborde un peu sur la presse également. Et je pense que c'est important vraiment de réussir à sortir. Et je pense que c'est aussi une responsabilité en tant que journaliste à un moment donné de dire, est-ce que moi je veux traiter cette information de la sorte? Est-ce que je rentre dans ce moule? Alors bien sûr qu'il y a des contraintes, hein, on a une vie, on doit, c'est un métier, mais parfois, moi, on fait le choix de sortir, et c'est important, et le pluralisme qu'on voit autour aujourd'hui montre qu'il y a d'autres voies dans ce métier qui peuvent se développer.
Frédéric ?
Alors, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité évidente du journaliste, ça c'est sûr, à la fois sur le contenu, puis aussi sur la maîtrise qu'il a ou non, en fait, de son outil économique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les journalistes ont délaissé la gestion économique industrielle de leurs médias sous prétexte qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper, que ce n'était pas digne d'eux, ce qui peut se comprendre parce que c'est très compliqué, mais le problème, c'est qu'ils ont laissé faire ça par des gens qui étaient dans une optique purement économique et qui ont pris la main à partir du moment où la presse devenait en crise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même aussi une responsabilité du lecteur. Moi, j'ai été très frappé dans un débat à La Criée à Marseille à l'automne dernier, où on parlait de l'impact que peut avoir le retour de Bernard Tapie dans le jeu politique au travers du rachat de la Provence. Toute la salle, et c'était le grand théâtre de La Criée, était remplie de gens qui hurlaient en disant « c'est un scandale, ça va totalement changer le débat politique à Marseille ». Quand on discutait avec ces gens dans la salle, qui était abonné à un journal papier, qui était abonné à des sites internet payants, c'était 1 sur 10, 2 sur 10. Donc même sur des gens qui se sentent sensibilisés, on a une majorité qui ne fait pas l'acte de financer la presse. Et par rapport à ça, je trouve que le slogan du Ravi, qui est de dire « un journal ne s'achète pas, il se soutient », eh bien, c'est un slogan particulièrement vrai, c'est que ça devient un acte militant, quoi, d'acheter la presse.
Alors, ils font peut-être pas l'effort d'acheter de la presse encore aujourd'hui.
Alexandra Lopez.
Mais voilà, mais je pense que il y a quand même une demande du lecteur aujourd'hui de lire quelque chose de différent, que ça soit sur le papier ou alors sur le web. Dès qu'il y a un magazine ou un journal qui débute, il y a un engouement qui se crée autour des lecteurs qui l'achètent le premier numéro, ça c'est sûr, pour savoir justement si à l'intérieur il y a quelque chose de différent, des reportages précis ou qui font différemment d'autres journaux où c'est vraiment le fait divers, la politique, voilà. Il y a aussi une énorme demande des lecteurs, même si la plupart ne sont pas abonnés quotidiennement, des lecteurs d'avoir quelque chose de différent. Et c'est aussi pour ça, parce que les journalistes ressentent aussi ce besoin-là, surtout les jeunes, c'est aussi pour ça que certains créent de nouveau, prennent le risque de créer quelque chose de nouveau.
Bon, c'est aussi un peu la question de la proximité avec son objet. Donc, par exemple, EBAM, vous êtes plutôt un site, disons, de critique culturelle, ou en tout cas plutôt sur les objets culturels. Et nous, comme à Radio Grenouille, on peut aussi s'en rendre compte parfois, et il y a toujours le danger de la distance distance, la distance critique, et parfois on peut, à juste titre peut-être, sans doute, nous reprocher d'être un peu trop près de notre objet, un peu trop près finalement du monde de la culture, pas assez de critique à l'égard de Capital de la Culture, ce genre de choses, et que parfois d'ailleurs on peut dire de Radio Gredouille, mais ce n'est que la radio de la friche et rien d'autre. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment ou cette difficulté que vous rencontrez dans la proximité avec votre objet ou des collusions vis-à-vis de l'objet que vous traitez?
Alors nous, ce qu'on fait sur notre site EBAM, on met en avant on fait des portraits, que ce soit de personnes, d'artistes, d'artisans, d'associations ou même de sports méconnus à Marseille, dont la plupart ne connaissent pas, comme des clubs de hockey subaquatique. Il y en a, ils sont très bons. On a des clubs très forts à Marseille. Ces sports-là ne sont pas mis en avant par d'autres médias. Et nous, on a pris le parti pris de justement mettre en avant ces sports. Certains sont champions du monde. Et c'est important pour nous de mettre en avant ces sports ou alors des associations méconnues. Voilà, vraiment la proximité avec les lecteurs, avec la ville, et ce qui nous entoure et ce qui nous plaît aussi à nous.
Frédéric ?
Sur la question de la collusion, enfin, pour moi, c'est un débat qui est presque aussi vieux que le journalisme. Soit on va...
Comme la crise, d'ailleurs.
Oui,
la presse.
Oui, d'ailleurs. Soit on va au plus près du sujet qu'on traite, donc on va au contact, on va parler avec les gens. Et dans ce cas-là, effectivement, au fil du temps, il y a un danger de collusion. Soit on reste en retrait, on fait juste du journalisme d'opinion, en regardant les choses à distance, et on dit, voilà comment ça devrait être. Et dans ce cas-là, on vous dit, mais oui, mais vous connaissez pas la réalité au plus proche du truc, et vous en rendez pas compte correctement. Donc voilà, c'est insolvable, ce truc.
Romain ?
Non, mais encore faut-il le temps. C'est vrai que parfois on n'a pas le temps, enfin on ne donne pas le temps aussi. Et juste rapidement une phrase, c'est que souvent on confond de plus en plus info et information. On aime les infos rapides comme ça, mais on ne parle pas d'information, d'approfondissement. Voilà, c'est l'info tout de suite, c'est pas l'information, je trouve.
Radio Grenouille 88.8.
On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous casse tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous casse tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Vous écoutez Radio Grenouille, une émission donc avec des représentants de V Marseille, de chez Albert.fr, de Bon Baiser de Marseille, une nouvelle mensuelle qui sort dans les kiosques jeudi, de Filma.fr et de EBAM, qui est également un site en ligne. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu du contexte un peu dans lequel aussi s'inscrivent tous ces journaux. Et il y a dernièrement France Culture qui se posait la question à quoi bon former aujourd'hui encore des journalistes quand finalement soit ils ne deviendront jamais journalistes parce qu'il n'y aura plus de presse, soit ils seront bien journalistes mais pigistes, c'est-à-dire qu'ils n'obtiendront pas leur carte de presse. Il y a d'ailleurs de moins en moins de personnes qui obtiennent leur carte de presse et qui sont pourtant qui rédigent pourtant les articles dans la presse. À quoi bon aujourd'hui aussi former des journalistes dans la mesure où il y a d'autres formes de journalistes qui apparaissent, les blogueurs, les lanceurs d'alerte qui deviennent eux-mêmes propres médias. L'affaire Snowden est assez exemplaire, où Snowden devient lui-même un média à part entière. Bon, dans ce contexte-là, comment vous redéfinissez le mot de journaliste pour vous? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il n'a pas du tout évolué? Comment vous pensez aujourd'hui ce métier de journaliste? Olivier?
Je veux bien en dire un mot. Oui, si on était raisonnable, on formerait plus de journalistes, on lancerait plus de journaux. Je pense qu'il y a sans doute mieux à faire. En même temps, il faudra trouver le secteur qui va bien en France, hein, qui est pas en crise. Alors c'est vrai, certes, la presse, notamment la presse écrite, aujourd'hui, c'est un peu la sidérurgie des années 80, je me souviens de ça. C'est très compliqué. Alors ça suppose quoi? Ça suppose de se réinventer, d'inventer des choses. Et de surtout pas rester sur des vieux formats qui ont marché pendant 50 ans, 60 ans et qui sont mortifères, enfin, ou qui vont finir par crever. Vous pouvez être certain que la grande majorité des journaux, alors quand je parle de journaux, je parle ici de presse d'information générale, ceux qui donnent le tempo sur l'actualité en presse écrite. Dans 10 ans, on en reparle, mais vous allez voir que la moitié de cela ou les trois quarts de cela n'existeront plus. Je parle de PQN, je parle des hebdos nationaux, je parle de la presse quotidienne régionale. Tout cela n'existeront plus. Donc, ça veut dire retrouver de nouvelles. Après, il faut bon, alors on arrête tout, mais on peut rester optimiste. Mais ça demande une place à l'inventivité totale. Et il y a des choses qui se font, il y a des choses qui existent, il y a des tentatives. Je crois qu'il faut innover. Je crois qu'il faut innover à tout niveau. Il faut trouver des recettes, des façon différente de raconter, de changer les cadres, les formats, voilà.
Mais par exemple, disons que ce qui arrive aujourd'hui à Marseille, c'est-à-dire la naissance de votre mensuel V Marseille, chez Albert, EBAM, Filma.fr, bon, il y a quand même quelques années, ça n'existait pas dans les régions. Il y avait, disons, la presse quotidienne régionale qui dominait, et c'est tout. Et est-ce que l'arrivée de cette nouvelle presse, les pure players locaux, voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi l'arrivée de nouveaux journalistes avec aussi de nouvelles manières de travailler, de nouvelles méthodes?
Mais on essaye de réinventer notre métier, puisque les manières classiques, on voit bien que c'est en train de se perdre. La presse,
bien proche du micro.
La presse écrite est en déclin, les ventes vont pas bien. Et c'est une crise qui, à la fois, on sait bien que les gens, ils ont plus d'argent pour investir, donc forcément, on réinvente un métier que nous, on a envie de pratiquer. On veut vraiment que que notre métier existe encore.
Alors, est-ce que réinventer son métier, ce n'est pas aussi penser la presse comme un objet de consommation, par exemple?
Non, pourquoi? Enfin, moi, je ne vois pas du tout en quoi c'est objet de consommation. Nous, on est gratuit et on n'est pas payé sur notre site EBAM. On a, pour le moment, c'est que c'est du bénévolat. On est ça nous rapporte aucun argent et ça nous en fait dépenser. Il n'y a aucune... pour moi, il n'y a vraiment aucune consommation. Je ne vois pas ça comme un objet de consommation. Je vois ça pour mes lecteurs. Les gens qui ont justement, tout à l'heure, on parlait de Quasimodo. Y a ceux qui montrent l'extérieur de Quasimodo. Et nous, on essaye de montrer l'intérieur, de voir qu'il y a autre chose que Marseille, Kalachnikov. Alors, effectivement, ça existe, on ne peut pas le nier. Mais il y a autre chose. Il y a aussi des artisans qui essayent de faire en sorte que la ville, elle soit bien. Des nouveaux artistes qui arrivent. On essaye de montrer différent.
Un petit mot, hein, c'est pas pour mettre en opposition avec ma jeune consoeur. Juste, c'est un métier, hein, journaliste. Un métier, ça veut dire qu'il faut en vivre. Donc moi, je vous souhaite de continuer longtemps, mais j'espère que vous avez, quelque chose au bout du tunnel. Autrement, vous ne tiendrez pas. Et c'est essentiel. Hein, ça veut dire du point de vue des méthodes, du point de vue de l'indépendance, du point de vue, c'est un métier. Et c'est là le vrai défi, en fin de compte. Arriver aujourd'hui à trouver une économie. Vous êtes sur Internet. Alors je sais qu'il y a des grands idéologues de l'Internet. Moi, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Nous, on va essayer d'y être. C'est indispensable aujourd'hui. Moi, je vends du papier, mais c'est indispensable. Et il faut développer une stratégie de marque, et c'est indispensable d'y être, et pas seulement être là avec quelque chose qui dit on existe sur le papier. Il faut inventer quelque chose. Ceci étant, les grands idéologues de l'Internet, moi, je sais qu'il y a encore une économie dans le papier. Elle est en souffrance, elle est en difficulté. Il faut la réinventer, il faut prendre en compte ça et trouver la solution sur Internet. Je ne suis pas persuadé pour l'instant qu'on fait autre chose que de la cavale pour trouver de la trésorerie sur des investisseurs.
Non, mais nous aussi, on aurait bien aimé être sur papier. Mais le problème, c'est que on voit nos camarades de V Marseille. Ils ont, enfin, il y a plus de. Nous, on n'a pas de fonds personnels à investir pour le moment et on n'a pas trouvé de format. On est en train de chercher notre format économique parce que bien sûr qu'on espère en vivre et je pense qu'on arrivera à en vivre. Ça fait déjà un an qu'on se bat sur notre site et on y arrivera sur la longueur. On veut s'inscrire dans la durée et montrer aussi que vous parliez de l'image du journalisme, mais le journaliste en lui-même, c'est est-ce qu'on est victime aussi les journalistes de ceux qui sont hyper médiatisés? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont connus et quand on dit oui mais tu passes pas à la télé, tu passes pas, non, il n'y a pas que ces médias-là. Je veux dire, le média principal actuellement c'est la télé. À se demander, enfin il faut aussi se demander pourquoi nous la presse écrite, la presse internet, même la radio sont des médias qui commencent à être aussi mal, sont méconnus par le grand public.
Frédéric, tu voulais réagir? Je crois.
Sur l'évolution du métier, je pense qu'il y a quand même un fond qui reste commun sur. Tu parlais tout à l'heure des 5W, qu'on le veuille ou non, c'est la façon la plus efficace de transmettre une information, quel que soit le contenu de cette information. Donc sur la vérification des sources, le croisement des infos, c'est ça, les bases restent les mêmes. Là où je suis d'accord qu'il y a une évolution, c'est qu'on devient tous petit à petit autant entrepreneurs que journalistes. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de l'environnement économique et des habitudes de consommation. Moi, je suis désolé, j'ose parler de consommation de la presse. Et je pense que des réussites éditoriales et financières comme les MOOC, notamment 21, elles ont pu atteindre ce niveau parce qu'il y a eu une réflexion sur l'acte d'achat. C'est-à-dire que 21, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est un bel objet et on se permet de se le payer aussi cher que ça parce que c'est un bel objet, parce qu'il est trimestriel, donc on va pas le payer cher souvent. Et donc tout ça, ça enclenche une certaine mécanique qui leur permet d'avoir zéro pub et qui leur permet derrière de faire les sujets qu'ils veulent comme ils veulent. C'était un pari. Au départ, tout le monde leur disait « vous allez vous planter ». Mais ils avaient eu un raisonnement économique et un raisonnement éditorial qui mariait et qui leur a permis de trouver des débouchés. Voilà, pour moi, l'évolution, elle est là. C'est qu'on est sur une évolution des formes, comme le disait Olivier, on tente du récit long, on tente de nouvelles formes d'écriture avec du fictionnel, du gonzo, etc. Et on est sur l'intégration dans notre travail journalistique de la dimension économique, parce que si on le fait pas, on va continuer à faire ce qu'ont fait nos aînés avant nous, c'est-à-dire continuer à écrire avec derrière la maison qui tombe, quoi.
Romain ?
Juste une chose, déjà le redire, être journaliste, c'est pour beaucoup un métier précaire, très précaire. Je rejoins ce que dit Olivier, je pense que l'avenir du métier, c'est de se réadapter, de peut-être de trouver dans un fusionnement de formats, de médias, proposer en tout cas quelque chose de nouveau. Je crois moi toujours à la presse écrite, mais je pense que la presse écrite devra s'adapter au monde du web et proposer des passerelles, à mon avis. Et juste quelque chose, je reviens vers toi Eric par rapport à V Marseille, je pense aussi que c'est de la responsabilité des acteurs locaux. Je parle de la presse locale et de jeunes comme ça qui montent des projets. Pour moi, la presse, c'est de la culture aussi. Et je pense qu'il y a des patrons à Marseille ou ailleurs. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent investir. Je parle du privé. Je parle pas de politique ou du public. Je parle du privé. Des gens qui pourraient soutenir. C'est de la création, la presse. C'est de la culture. C'est une porte vers le monde. Et je trouve que c'est un monde très frileux à Marseille, que les patrons, ont très peu de couilles et gardent leur argent et n'aident pas ces projets qui sont là aussi pour... C'est du pluralisme, c'est de la démocratie.
Mais il y a un patron qui finance Mars Actu, qui est au capital de Mars Actu.
Au proche du micro. Mars Actu est financé effectivement par un patron.
Il y a un des patrons de Marseille qui est entré au capital de Mars Actu qui justement lui a investi.
C'est donc l'exception, tu as raison.
Ce qu'on peut dire là-dessus aussi, c'est qu'on a des vieux réflexes,
Olivier.
Parfois un petit peu gauchistes sur ce rapport à l'argent. Moi, consommation, ça ne me pose aucun problème. Je me souhaite de vendre le plus possible, je me souhaite de mettre des pages de pub le plus possible. Et je ne fais pas un journal pour vendre des pages de pub, ça ne m'intéresse pas personnellement. Je ne fais pas un journal pour faire du commerce, je fais un journal pour faire du journalisme. Mais sans ça, je vais pas tenir. Et par exemple, par rapport à ce que tu dis Frédéric sur Mars Actu, qui effectivement a des investisseurs privés, ces fameux patrons que cherche Romain et que je cherche aussi, et qui ont une responsabilité, il faut savoir que ça lui est beaucoup reproché. C'est-à-dire, on dit à Pierre Boucaud, le patron de Mars Mars Actu, ah oui, mais attention, ça c'est le grand capitalisme, etc., etc. Oh là là, malheur, malheur. Il faut de l'argent, il faut des patrons qui investissent dans ces journaux, il faut de la pub, il faut des achats. Acte de consommation. Et puis en plus, ça a un coût. Quand je vous dis c'est un métier, et produire de l'information, c'est un coût. Il faut que quelqu'un paye. Ça coûte cher, produire de l'information.
Si la presse devient objet de consommation, ça veut dire aussi que moi, en tant que lecteur, je consomme de la presse. Je ne suis plus uniquement, disons, qu'un lecteur critique. C'est-à-dire que je la consomme et donc je la jette aussi rapidement que je l'ai consommée. Et donc j'exige aussi, du coup, de la presse qu'elle soit toujours plus inventive, toujours plus neuve, toujours plus fraîche. Et est-ce qu'il n'y a pas là rentrer dans une forme de course à toujours l'actu la plus fraîche, l'actu qui vient de sortir au buzz?
Oui, mais ça n'avait échappé à personne que vous étiez un lecteur exigeant, attaché d'être à la hauteur de ces exigences-là. Mais c'est normal que vous exigiez, le lecteur est roi, et c'est à nous de d'apporter des réponses et de convaincre et de proposer des choses. On a parlé du long format, nous c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On a parlé des mélanges, des croisements des récits. Moi je crois beaucoup, 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 beaucoup à ça. Moi j'ai fait du documentaire télé, c'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'attention et que j'aime beaucoup ce que fait Romain et ses amis sur
Filma.
Vraiment c'est remarquable, je tiens à le dire ici. Une écriture vidéo, image et écriture tout simplement que je trouve absolument remarquable. J'aime beaucoup ces approches-là. Ça, c'est plein d'inventivité. Et puis pour nous aussi, presse écrite, il faut effectivement qu'on invente des choses, qu'on trouve des passerelles. Moi, j'ai fait du documentaire, j'ai fait de la télévision, j'ai fait de la radio, j'ai fait de l'édition. Et ça m'a appris beaucoup de choses pour mon métier de journaliste. Par exemple, le point de vue de l'auteur en documentaire, mais pour un journaliste, c'est incompréhensible ce truc-là. C'est incompréhensible. Moi, je peux vous dire que faire des pages et des pages pour Arte, pour qu'ils vous coupent ça en quatre, et pour savoir s'ils veulent bien que vous ayez votre point de vue d'auteur et que vous soyez auteur de documentaire, ça m'a beaucoup appris, ça m'intéresse beaucoup. Je crois à ça aussi.
Eric ?
Bon, non, c'était tout à l'heure sur le débat de information égale consommation. Enfin voilà, je pense qu'on était sur des débats théoriques. On est obligé de vendre pour se faire lire. Enfin voilà, il y a deux mondes qui se rejettent, mais qui doivent marcher ensemble. C'est l'aspect commercial d'un titre de presse et l'aspect éditorial. On est obligé de vivre, de vendre de la publicité ou de vendre du papier pour pouvoir faire son métier.
Lauriane.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça justement, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui se combattent, mais vous parliez avant de convaincre le lecteur. Est-ce que le fait que le lecteur soit l'acheteur avec les abonnements des magazines qui fonctionnent qu'avec les abonnements, c'est pas la forme de conviction la plus forte, et du coup là le lecteur consommera l'information, mais c'est parce que c'est lui qui la produira. Et je pense que quelque part, enfin d'une certaine façon, c'est quelque part une forme d'avenir de cette presse locale qui participe justement à la démocratie locale.
Ça rejoint ce que tu disais, Frédéric, sur le fait qu'il s'agit de soutenir un journal.
Oui, ben, là-dessus, moi, je m'appuie sur l'expérience du Ravi auquel je participe un petit peu. Le problème, c'est que des titres comme ça, sur lesquels vous dites, il y a un acte d'achat qui est vraiment militant, qui est pour soutenir un projet éditorial, soutenir une façon d'aborder des questions, des problèmes. Sur le papier, c'est génial. Le fait est que le Ravi a organisé à la rentrée dernière une rencontre de la presse Pas Pareil, où on était une quinzaine de titres de toute la France pour discuter justement de ces stratégies, y compris des titres vraiment très identifiés comme Politis. Et même Politis disait, on est confronté à des difficultés majeures du genre nos abonnés qui ne renouvellent pas leurs abonnements. Et moi, je sais, je l'ai fait pour le Ravi. J'ai fait du phoning auprès d'abonnés du Ravi. Vous appelez un abonné du Ravi, donc quelqu'un qui est sensibilisé à la problématique de la presse indépendante. Vous lui dites, vous avez pensé à vous rabonner. Il vous dit, ah non, j'ai oublié parce que en même temps, je pensais qu'en l'achetant en kiosque, ça vous donnait plus d'argent. Ben non, justement pas. Si vous l'achetez en kiosque, il y a une énorme part du prix de vente qui passe directement dans la poche de Prestalis, donc qui gère la diffusion de la presse, qui a ces problèmes de coûts qui sont... On ne va pas rentrer dans le débat là-dedans.
Mais d'ailleurs, il y a de moins en moins de points de vente. Hein.
Voilà, mais le problème, c'est que même sur des gens qui sont très, très, très dans cette mouvance, et c'est quand même une petite minorité, hein, qui sont très, très dans cette mouvance de presse indépendante, etc., ils n'ont pas le réflexe. Donc, il faut réfléchir le truc différemment. On ne peut pas rester sur notre espèce de position de principe qui est de dire « le lecteur paiera ». Ben non, le lecteur, il ne paie pas. Même quand il est sensibilisé, il ne paie pas ou même il oublie. Donc, il faut trouver autre chose, quoi.
Revenons quand même un peu sur le métier de journaliste parce que, bon, d'accord, le journaliste, c'est des savoirs, des pratiques, des règles. Disons, si tout à l'heure, on parlait de Mars Actu au niveau des financements. Bon, par exemple, au niveau de leurs recettes, eh bien, la part de travail non journalistique, c'est-à-dire le conseil web, conseil internet est plus important que la rentrée publicitaire. Et donc, cette rentrée-là n'est pas du tout une rentrée qui est liée à leur travail de journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec une activité non journalistique qu'ils financent en partie de l'activité journalistique. Donc, le journaliste, comme celui qui est journaliste 100% de ton temps de 8h du matin à 20h le soir, c'est peut-être un peu terminé, ça.
Alors, vous avez un grand monsieur à Marseille qui a dit que la Provence était une marque mondiale et qu'il fallait s'appuyer sur ça pour l'avenir de ce journal-là. Bernard Tapie, évidemment. Bon, même s'il me semble que ce sont des choses qu'on a déjà entendues dans les années 80 et que c'est pas très nouveau, voilà. C'est sûr qu'il faut jouer une stratégie de marque et que ça ne suffit pas. Concernant notre magazine, on va essayer de, on espère, les ventes et les chiffres les plus hauts possibles. Moi, j'ai la conviction que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vivre aujourd'hui à Marseille un magazine uniquement sur un magazine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver ailleurs aussi et que c'est une stratégie de marque. Nous concernant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très rapidement, il faut penser à des stratégies de hors-série.
Ou des stratégies, par exemple, l'identification de mots, calache, ce genre de choses, c'est-à-dire commencer à marquer un peu les esprits.
Oui, ça c'est du marketing et de la titraille. Et moi, je considère c'est une bande d'annonce comme une bande d'annonce d'un film. Enfin bon, ça, on peut en discuter. Mais il faut trouver d'autres recettes. Voilà, il faut trouver. Ça peut être de l'événementiel. Je connais des journaux qui n'ont personne dans les rédactions, qui ne font des journaux que pour faire de l'événementiel. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais moi, je m'interdis pas de faire un peu d'événementiel également. Ça peut permettre d'équilibrer une activité de presse. Mais c'est la stratégie de marque.
Autre chose encore sur ce travail de journaliste, par exemple, il y a de plus en plus de blogueurs qui deviennent des vraies ressources pour les journalistes, des blogueurs experts, et là qui ne sont pas non plus journalistes, et pourtant on sait que les médias s'appuient de plus en plus, enfin les médias, beaucoup de presse écrite ou la presse en ligne, s'appuient de plus en plus sur tout un relais de blogueurs pour alimenter leurs journaux.
Allez, je vais vous donner deux noms, Anaïs et Pedro, certains les connaissent ici, ils font les meilleures fêtes de Marseille. Dans le numéro 2, ils vont nous présenter leur 10 lieux pour faire la bringue à Marseille, à Aix. Blogueurs, excellents blogueurs, ils ont un réseau, ça m'intéresse, je les paye, voilà. Donc, effectivement, mais beaucoup, je sais, ne payent pas ces gens-là.
Romain de Filma.fr, vous appuyez aussi sur, par exemple sur la vidéo quand même, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui font un travail avec la vidéo comme ça, non ? Et est-ce que vous appuyez sur des réseaux de blogueurs ?
Non, on a encore un travail qui est très traditionnel, donc on s'appuie sur notre propre réseau et notre savoir-faire. Après, on est sur Twitter, on est sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, le journalisme citoyen existe. Il faut le prendre en compte. Je pense qu'il y aura toujours besoin de journalistes de ce métier pour analyser, approfondir, pour décortiquer. Mais effectivement, sur Internet, il y a des talents et il faut savoir collaborer avec eux aussi.
Frédéric Chialbert, c'est à la fois un site en ligne, mais c'est aussi une émission radiophonique, et donc vous naviguez quand même entre deux médias radio et presse en ligne, et puis sur la presse en ligne, vous avez également de l'image, du texte, un petit peu de vidéo, mais vous êtes davantage sur du feuilleton.
Oui, nous on se situe un petit peu comme le fait Romain avec Filma, hein, sur une posture qui se rapproche du documentaire, dans le sens où, pareil, on a fait, nous, du news pendant 10 ans au quotidien, et qu'à un moment, on avait l'impression d'en avoir un peu fait le tour. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un espace, en tout cas, nous, on avait envie de faire sur Marseille, et puis plus largement ailleurs, parce qu'on a fait des reportages ailleurs en France et même en Belgique, pour être totalement fou, pour du reportage vraiment sur le long cours, à la fois dans la phase préparation, recherche d'infos, et puis sur la phase de diffusion. On fait des reportages de 6-10 épisodes diffusés sur 2 mois. Alors des fois uniquement écrits, des fois multimédia, voilà. On voulait vraiment travailler le temps long, parce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire, et qu'Internet nous permettait de faire, avec un investissement relativement petit. Je dis relativement parce que c'était beaucoup plus cher que ce qu'on pensait quand même.
Et ce site-là, il n'y a aucune rentrée financière sur ce site.
On a quelques publicités. Alors pareil aussi, on n'a pas de régie pub pour le coup comme V Marseille, donc on est beaucoup moins efficace. Mais effectivement, nous, ce qui permet de commencer à nous payer chichement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça fait 3 ans qu'on existe et on commence à peine à pouvoir se payer un tout petit peu maintenant, c'est des activités annexes qu'on fait à côté. On fait des piches pour d'autres journaux, on fait des cours. Voilà, on a un modèle Marseille qui se rapproche de ce que fait, de ce que faisait OVNI au tout début, c'est-à-dire qu'on a une activité annexe qui nous permet de gagner un petit peu notre vie et puis et de nous donner du temps aussi pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire le contenu. Donc là, c'est un fonctionnement un peu spécial où le journalisme c'est presque une activité annexe, mais en même temps c'est notre cœur de métier.
OVNI, un excellent site qui me manque beaucoup en ce qui me concerne. Donc c'est quand même de nombreux sites différents, donc papier, site en ligne. On pourrait se dire, mais pourquoi il n'y a pas de mutualisation entre vous pour qu'à un moment donné, ça soit plus solide économiquement? Je vois plein de complémentarités, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Nous arrivons aux 30 dernières secondes de
cette émission. Je pense que c'est juste une question de temps, en fait. c'est qu'on n'a même pas le temps, en fait, d'en parler entre nous.
C'est ça. Mais c'est l'envie est...
Eh bien, j'espère que vous reviendrez sur les ondes de Radio Grenouille, si nombreux, pour continuer à parler. Je crois que on aurait pu parler de plein d'autres choses, de la question du data journaliste, parce que c'est aussi une question qui se pose, ou on aurait pu parler de la manière dont les journalistes sont pris otages par les robots, et la manière dont ils ont commencé à écrire des articles pour qu'ils soient référencés, et qu'ensuite ce sont les robots qui ont commencé à écrire les articles à leur place. Ça leur apprendra à vouloir faire des articles lus par les robots, au final ce sont les robots qui les écrivent. Voilà, on aurait pu parler de tout cela, donc cette prolétarisation de la presse, mais c'était bien aussi de parler de plutôt des aspects aussi qui donnent envie aujourd'hui de faire de la presse, comme par exemple l'expérience d'Ebam, aussi précaire soit-elle, aussi jeune soit-elle, en tout cas elle existe, et cela, ça fait plaisir, comme l'arrivée d'un nouveau mensuel Bon Baiser de Marseille, quand un autre vient de se terminer, mais qui part sans doute dans une nouvelle aventure, Éric Bessatine. Une émission réalisée par Jean-Baptiste, c'est Emmanuel au micro, et aujourd'hui, Lauriane pour une chronique. Merci à vous.
Merci. Merci.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.